Fort intérieur avec Charles Mopsik. Rarement mot fut aussi malmené que celui de cabale. Dans le langage courant, en français, il signifie tout autre chose que ce qu'il est en vérité. Il s'agit d'un mot hébreu, kabbala, tradition. C'est à la recherche de cet extraordinaire mouvement spirituel que nous allons partir avec vous, monsieur, vous qui en êtes un des plus grands spécialistes mondiaux. Charles Mopsik, vous êtes chargé de recherche au CNRS, vous enseignez. Vous êtes traducteur de nombreux textes de la tradition juive, et notamment de 4 tomes du Zohar, publiés aux éditions Verdier, situés à La Grasse, qui est un livre clé d'une des voies de la Kabbale. On vous doit récemment une édition et une traduction chez le même éditeur, Verdier, d'un texte de Rabbi Joseph de Hamadan, fragment d'un commentaire sur la Genèse, et surtout un livre clé sur la Kabbale, qui s'intitule « Kabbale et kabbaliste », qui a été publié aux éditions Bayard en 1997. Et vous êtes également directeur de collection chez Verdier. L'histoire de la Kabbale s'étend sur plus de 8 siècles. Elle a été représentée par d'innombrables maîtres et a donné lieu à une quantité impressionnante d'ouvrages qui n'ont même pas tous été recensés. C'est-à-dire qu'il s'agit encore d'un domaine où la recherche peut nous faire apparaître des connaissances nouvelles. Nous n'allons donc ouvrir avec vous, Charles Mopsik, qu'une minuscule porte sur ce vaste domaine. Et j'espère que nos auditeurs feront appel à leur intuition pour entrer plus avant. Et ce sera à chacun ensuite d'essayer d'approfondir. Alors, nous commençons, vous qui êtes si pudique, néanmoins, par parler de votre vie, par une naissance à Paris, dans une famille qui est un lieu de croisement, puisque d'un côté, vous aviez une ascendance askénaze et de l'autre côté, une ascendance séfarade, ce qui, j'imagine, doit dès le départ donner quand même un certain sens de l'ouverture.
De l'ouverture et du déchirement aussi, puisqu'entre ces deux courants, il y a non seulement une histoire ancienne, commune, mais aussi beaucoup de rivalités et de malentendus aussi. Donc c'est au carrefour de ces deux cultures que je suis venu au monde et que j'ai commencé à y cheminer d'un pas un peu boiteux, forcément, puisque j'avais le nord et le sud sous chacune de mes semelles, et j'ai découvert à quel point les êtres humains pouvaient se ressembler et différer en même temps, et à quel point le judaïsme était lui-même divers et pas du tout monolithique comme parfois on le croit être.
Mais néanmoins, la tradition n'était pas très présente dans votre famille.
Elle n'est pas très présente, puisque mon père était plutôt tourné vers l'Orient, vers le bouddhisme. Et pour ma mère, le judaïsme était surtout une tradition familiale, sans culture approfondie, sans connaissance des sources.
Oui, et même elle avait une certaine crainte à l'égard du mot kabbal lui-même.
Le mot kabbal, au Maghreb, signifie synonyme de folie, pour différentes raisons. Je crois que l'une d'elles peut être que, due à l'influence de certains courants soufis, pour lesquels la folie divine, est une désignation élogieuse. Mais dans les milieux judéo-maghrébins, c'était une désignation péjorative essentiellement. Ceux qui entraient en kabbale, ceux qui devenaient kabbalistes, par la même occasion, devenaient ou révélaient une certaine forme de déraison, de marginalité et donc de folie.
Donc enfant, votre initiation au judaïsme a été relativement superficielle.
Oui, familialement, oui. Certainement.
Oui. Et à partir de quand, alors de quel âge, vous êtes-vous ouvert à cette tradition?
Disons que j'ai rencontré à l'âge de 7 ans, à l'occasion de vacances familiales, un rabbin qui a commencé à m'apprendre le béaba, les premières lettres. Et puis ensuite, à partir de l'âge de 10 ans, j'ai fréquenté un cours d'hébreu, comme on appelait cela, pour accomplir ma bar mitzvah, c'est-à-dire la cérémonie d'initiation qui, à partir de laquelle on est considéré à 13 ans comme ayant atteint sa majorité religieuse et étant passible de tous les commandements.
Et ce qui vous attirait dans cette voie était d'ordre culturel pour renouer avec une tradition, mais il y avait aussi, je le sens à travers vos ouvrages, il y avait aussi comme une grande ouverture spirituelle.
Ce n'est pas cette formation familiale et puis ensuite dans l'enfance qui m'a véritablement imprégné ou attiré. À elle seule, elle n'aurait pas du tout suffi, loin de là, pour me faire cheminer vers ce qui a été pour moi une grande partie de mon activité et de mon existence. Je dirais presque au contraire, si je m'en étais tenu à ce que j'avais appris de mon enfance et de mon adolescence, je crois, il est vraisemblable. Je ne peux pas refaire ma propre histoire. Et à plus forte raison, je ne peux pas refaire l'histoire, bien sûr. Mais je crois, me semble-t-il, que je n'aurais peut-être jamais continué à ouvrir un livre ou même à entendre une parole de cette tradition.
Et pourquoi? Qu'est-ce que vous rejetiez dans ce qu'on vous a apporté?
Je ne rejetais rien. Disons que je ne recevais pas. Je ne recevais pas
Ça
parce
vous
que
semblait purement formel ou purement coutumier?
ça me semblait pas assez démontré, pas assez prouvé, ne s'appuyant pas sur des raisons suffisantes pour entraîner, pour engager toute une existence, tout un comportement, des croyances.
Alors d'où est venu le déclic?
Peut-être que le déclic n'est jamais venu d'une certaine façon, je ne sais pas, peut-être que je l'attends toujours. En tout cas, cette capacité à l'attendre, cette ouverture vers ce déclic, qui n'est peut-être pas encore parfaitement venu, je ne sais pas, mais venu plus tard, bien plus tard, vers l'âge de 18 ans, quand j'ai découvert l'année de mon étudié la philosophie en terminale, la Kabbale. Ça s'est fait simultanément.
Par un maître qui
Oui,
vous l'a
tout à,
enseigné ou des lectures ou...
surtout par un maître qui me l'a enseigné, mon professeur de philosophie, s'appelait Jean Zaclade, qui m'a ouvert et m'a fait découvrir, à sa façon, une façon peut-être pas très ordinaire, ce qu'était la Kabbale dans ses grands textes.
J'étais un petit peu étonné tout à l'heure, Charles Mopsic, de vous entendre faire appel à la raison, à la démonstration pour la cabale, puisque quand même. Le domaine de, je ne dis pas de l'irrationnel, volontairement je n'emploie pas ce mot, mais disons le domaine de l'intuition et de l'expérience intérieure, éventuellement parfois du non-dit, est très important dans cette tradition du judaïsme. Donc il n'y a pas que la raison qui doit être mise en branle quand on aborde le domaine de la Kabbale.
Je crois que ce qui m'a surtout impressionné quand j'ai abordé de cette façon le domaine de la Kabbale, c'était que ce n'était pas des croyances qui m'étaient demandées, ce n'est pas des actes de foi, mais une écoute approfondie. Et tout, peu à peu, bien que a priori baigné de grands nuages d'obscurité et de ténèbres, peu à peu, des lumières se sont mises à scintiller. Je veux dire que ce n'est pas une démarche pieuse qui a été pour moi à l'origine de ma rencontre ou de ma découverte de la Kabbale. Mais je dirais presque le contraire. Contre la piété à laquelle j'étais requis d'adhérer de par l'école que je fréquentais, c'était une école juive, la Kabbale m'était apparue comme une ouverture vers un fondement qui se proposait comme étant non pas une forme de religion particulière, mais qui donnait le sens à la religion, au judaïsme. Et lui donnant son sens, elle était plutôt, elle jouait le rôle de la raison du judaïsme, qui n'avait pas peut-être pas besoin elle-même d'être expliquée, qui était peut-être son silence et son mystère. Mais en même temps, sa grille d'interprétation. Et c'est pourquoi j'ai été saisi par ce qu'elle me révélait de ce que j'avais appris du judaïsme, des pratiques quotidiennes, des prières, des récits relatés dans le texte biblique, en un mot, de tout ce qui constitue la vie coutumière, religieuse, dans le cadre du judaïsme.
Oui, donc soudain, ce qui vous semblait relativement éloigné de vous a eu un éclairage particulier qui lui a donné une intensité de vie et qui vous a amené à y consacrer votre vie. C'est donc une
Oui.
question d'éclairage surtout.
D'éclairage et même de révélation aussi. De révélation que ce qui semblait finalement sans profondeur particulière, sans épaisseur, banal ou routinier, devenait soudain un trésor de mystère insondable.
Oui, mais enfin, les talmudistes aussi, à partir d'une phrase qui pourrait sembler relativement convenue, et à partir du jeu symbolique des lettres ou des chiffres, nous montrent qu'il y a dans la Bible des trésors insondables. Or, ce n'est pas la voie que vous avez choisie.
Le Talmud tel que je l'ai découvert, tel que je l'ai étudié à cette époque, donc ma formation avant l'âge de 18-19 ans, n'a pas du tout été enseigné de cette façon, plutôt pas apparu comme une corvée, comme une étude pénible, difficultueuse, qui ne m'éclairait pas, qui, je dirais presque, qui plutôt m'obscurcissait.
Ah oui, tandis que la Kabbale éclairait. Mais il ne
C'est comme ça
peut,
que je l'ai perçu.
oui, il ne peut y avoir cette sorte de saisissement par quelque chose de nouveau et par un approfondissement que si cela correspond aussi à un épanouissement de la vie intérieure et de la vie spirituelle.
Bien entendu.
Oui,
Bien
parce
entendu, parce
qu'il ne
que
faudrait pas qu'on imagine qu'il s'agit simplement de spéculation.
là, c'est tout le point. Enfin, il s'agit aussi de spéculation, mais ce n'est pas l'aspect spéculatif qui m'avait effectivement, au départ en tout cas, passionné. C'est-à-dire que, en éclairant, disons, la tradition commune, collective, telle que tout le monde peut l'aborder directement, tradition de la synagogue, même la tradition familiale, les coutumes, les rites, les croyances, en l'éclairant, elle éclairait en même temps, peut-être plus profondément encore, des ressorts cachés ou des ressorts profonds. Les passions, les désirs, l'imagination intérieure. Et c'est donc un double mouvement, un mouvement à la fois de l'intérieur vers l'extérieur et puis de l'extérieur vers l'extérieur. C'est comme si deux portes s'étaient ouvertes en même temps. Une porte intérieure, j'étais fermé en grande partie au judaïsme, on peut le dire comme ça, je crois. En tout cas, j'étais assez très réticent vis-à-vis de cette religion qui m'apparaissait dépassée comme toutes les religions, sans grand intérêt. Et cette porte s'est ouverte grâce à la Kabbale, et parallèlement une autre porte, une porte personnelle, la porte de la connaissance de soi, s'est ouverte ou entr'ouverte à partir du moment où j'ai découvert que la Kabbale, justement, était une pensée qui permettait de comprendre ce qui, en général, n'est pas mis en mots, demeure caché ou qu'on n'aborde pas. La Kabbale aborde des questions comme le rapport entre le masculin et le féminin, par exemple. À 17-18 ans, c'est une question importante et qui peut tracasser. Et après, et par la suite aussi d'ailleurs, ça ne s'arrête pas à cet âge-là, j'espère. Ben, disons que c'est l'univers qui s'est éclairé d'un. Et à la fois l'univers familier, mon univers familier et mes ressorts intérieurs.
Oh.
herbe folle sur les champs labourés des disciplines du savoir, les ésotérismes des grandes religions n'en constituent pas moins une niche féconde où se réfugie la vie de l'esprit quand l'aridité ambiante tend à stériliser toute nouvelle floraison. Phrase de vous, Charles Mopsik, extraite du prologue de votre ouvrage, Kabbale, publié aux éditions Bayard dans la collection L'Aventure intérieure, et qui situe bien la Kabbale dans la tradition de ce qu'on appelle l'ésotérisme. Mais on n'a pas beaucoup avancé quand on a dit ce mot, puisque ce mot est aussi servi à toutes les sauces, les meilleures et les pires. Alors je crois que pour y voir plus clair, puisque maintenant vous nous avez montré votre itinéraire et comment la Kabbale a vraiment fécondé votre propre vie, à la fois intellectuelle, spirituelle et probablement aussi affective et personnelle et intérieure, il s'agit de situer donc la Kabbale d'un point de vue historique, et nous avons la chance d'apprendre qu'elle est née dans les milieux juifs qui se trouvaient en France autour de Narbonne.
Autour de Narbonne, plus exactement près de Posquières, la ville de Posquières, qui était le berceau de la Kabbale médiévale. Elle a bien sûr son antiquité, c'est-à-dire si elle est née à ce moment-là en France, elle avait cheminé auparavant de façon... L'histoire n'a pas retenu ses itinéraires, mais elle avait cheminé depuis sans doute la fin de l'Antiquité. On en trouve des traces dans la littérature rabbinique, la littérature hébraïque ou araméenne, juive, et aussi dans la littérature gnostique, ou dans d'autres textes parallèles, par exemple dans la littérature des palais, dans la littérature intertestamentaire, dans quelques passages du Talmud. On trouve des allusions à des versions mystiques, des interprétations du judaïsme, de la création, de la vision d'Ézéchiel, qui sont les germes de ce qui allait plus tard être la Kabbale. Et un point aussi important, et je crois qu'il faut d'emblée avancer, c'est toute cette réflexion à la fin de l'Antiquité, qui touche aussi bien le judaïsme que le christianisme d'ailleurs, sur le corps de Dieu, sur la forme anthropomorphique de Dieu. Dieu a créé l'homme selon Genèse 1, 26, 27, selon sa propre image. Donc l'homme est porteur de l'image de Dieu, et donc par conséquent, Dieu est forcément un être qui dispose d'une figure corporelle qui a quelques ressemblances avec celle de l'homme, et c'est à cette figure corporelle que vers elle vont se tourner les chercheurs au sens mystique ou des personnes qui vont élaborer à partir d'elle ce qu'on a appelé la littérature du shiur koma. Shiur koma, ça veut dire la mesure du corps, la mesure de la taille du corps. Le corps de Dieu étant, pour cette tradition gigantesque, dépassant l'imagination dans sa dimension infinie, il s'agissait d'explorer tous ses aspects. Ses bras, ses pieds, ses mains, sa tête, sa couronne, ses couronnes. Et cette tradition du shiur koma a été un élément très très important à la formation de la Kabbale au Moyen-Âge, et dans le Languedoc en particulier, puis ensuite dans l'Espagne du Nord, surtout en Catalogne et puis en Castille, où la Kabbale est devenue véritablement, avec le Zohar, l'école du Zohar, une pensée majeure du judaïsme.
Tout en ayant une influence sur le christianisme, parce qu'il y a eu aussi, vers ces époques-là, des kabbalistes chrétiens.
Les kabbalistes chrétiens commencent à apparaître plutôt vers la fin du XVe siècle, début du XVIe siècle, en Italie. C'est un fait, à part peut-être le cas exceptionnel, exception qui confirme la règle de Raymond Lulle, l'Espagne, le christianisme espagnol, n'a pas été ouvert, on n'a pas connu la Kabbale, puisque, y compris dans le livre de Raymond Martini, le Puggio Fidei, le point de la foi, qui est un livre qui reprend beaucoup de passages du Talmud à l'adresse des Juifs, pour leur dire, vous avez dans vos textes, c'est un livre apologétique, d'apologétique chrétienne, missionnaire, pour essayer de convertir les Juifs au christianisme. Un livre qui reprend beaucoup de traditions juives, puisées dans toute la littérature rabbinique, mais pas justement à la Kabbale. Et donc, c'est vraiment le témoignage que l'Espagne médiévale a été, enfin l'Espagne chrétienne, a été fermée au judaïsme et à la Kabbale en particulier.
Voilà, et c'est quand effectivement la Kabbale passe vers l'Italie, au moment du début de la
Oui,
Renaissance,
oui.
que l'interférence, enfin le dialogue profond peut s'établir
Tout à
entre
fait.
chrétiens et juifs.
Tout à fait.
Et vous insistez par exemple sur l'influence que la Kabbale a pu avoir sur un homme comme Pic de la Mirandole, par exemple.
Tout à fait. Pic de la Mirandole, par le grand humaniste qu'il était, avec la figure tout à fait premier plan dans l'histoire de l'humanisme occidental, était aussi un kabbaliste, enfin, en tout cas, un premier kabbaliste chrétien, initié par surtout Yohanan Alemano, kabbaliste d'ailleurs probablement d'origine provençale, en tout cas, qui vivait en Italie, en partie à Pise, puis à la cour qui est proche de la cour des Médicis, à Florence, qui était le maître de Pic de la Mirandole en matière de kabbale. Mais il avait autour de lui également d'autres maîtres qui lui ont appris l'hébreu et qui ont traduit pour lui des textes de Kabbale vers le latin, et qui ont été en quelque sorte les bâtisseurs de ce qui allait devenir la tradition occidentale de la Kabbale chrétienne, qui s'est ramifiée ensuite, diversifiée, et qui a donné lieu à des écoles vraiment nombreuses, qui étaient reprises aussi dans la franc-maçonnerie, et puis par exemple, dans un mouvement comme le mouvement de la théosophie de Madame Blavatsky à la fin du 19e siècle. Bref, c'était le lieu de fermentation, en même temps qu'on retrouvait, que les humanistes de la Renaissance retrouvaient la sagesse grecque et latine. Ils retrouvaient également l'hébreu. Cette troisième part de l'humanisme de la Renaissance, qui est souvent oubliée, je crois, a joué un rôle très important dans l'écart, dans la prise de distance qu'il y a eu vis-à-vis de la tradition chrétienne telle qu'elle était présentée ordinairement, et également de l'aristotélisme. Disons que la pensée un peu figée du Moyen-Âge a pu être ébranlée. Ouverte, devenue à nouveau un mouvement vivant, grâce à ces trois apports conjoints de la philosophie ou de la littérature grecque et latine et de la littérature hébraïque et surtout de la Kabbale à cette
Alors
époque.
voilà pourquoi justement, lorsqu'on a voulu s'ouvrir à d'autres formes de connaissances que celles que l'on pratiquait auparavant, dans cette période de la Renaissance, est-on allé plutôt vers la Kabbale que vers d'autres traditions du judaïsme?
Parce que la Kabbale, d'une part, d'après ses textes, se présentait comme un enseignement venant, une tradition s'originant dans le premier Rome, c'est-à-dire une tradition donc universelle, puisqu'elle a sa source dans Adam, le premier couple humain, et puis ensuite ayant été transmise à Abraham et à ses descendants. Cela d'une part, et d'autre part parce qu'elle était, contrairement à la philosophie juive médiévale, comme la philosophie de Maïmonide, qui est bien connue, une forme de pensée qui n'était pas liée ou dépendante d'Aristote, et qui semblait proche de Platon. Effectivement, le platonisme, et surtout le néoplatonisme, a joué un rôle très très important dans la formation de la pensée des kabbalistes médiévaux. L'apport de Proclus, directement ou indirectement par le biais de Jean-Scott Érigène, un philosophe chrétien irlandais du Xe siècle, cet apport a été fondamental, déterminant, a permis l'éclosion du discours mystique sous une forme spéculative ou intellectuelle qui pouvait être donné lieu à des discussions ou à des approfondissements en parallèle ou de même ordre ou de même d'exigence identique à celle de l'exigence de la philosophie médiévale essentielle juive qui était à l'époque essentiellement aristotélicienne. Et donc les humanistes de la Renaissance, dans la Kabbale, trouvaient en hébreu les idées de Platon. Donc trouvaient un Platon qui avait l'habit ou qui avait la forme de Moïse. Ils ne pouvaient pas rêver mieux par rapport à leur propre démarche, puisque la réconciliation entre la tradition révélée, d'une part, et d'autre part, la pensée philosophique, se trouvait en quelque sorte déjà réalisée dans la Kabbale.
Et alors là, nous touchons, Charles Mopsik, un point capital, même pour les temps d'aujourd'hui. Est-ce que vraiment, à travers la Kabbale, on peut toucher quelque chose qui serait un fond commun spirituel de toute l'histoire de l'humanité?
Je crois, bon, c'est une question difficile. C'est difficile de répondre par oui ou par non. Pour les kabbalistes, il s'agit certainement d'une tradition qui touche ou qui concerne toute l'humanité, puisque cette tradition est attribuée explicitement dans les textes kabbalistes à Adam. C'est Adam qui en aurait reçu l'héritage révélé par un ange, l'ange Raziel, l'ange du mystère. Et donc, cette tradition que lui-même a retransmise à ses enfants et donc à toute l'humanité s'est retrouvée au centre et au cœur d'un certain universalisme juif. Mais en même temps, les kabbalistes ont toujours été très jaloux de cette tradition, évitant de la révéler ou de la divulguer trop ouvertement. Non seulement à l'extérieur du judaïsme, mais même à l'intérieur du judaïsme, où, pendant toute une longue période, il était interdit de l'enseigner ou de la propager. Un phénomène qui a l'air aujourd'hui allant de soi, comme l'impression d'un livre, dans le cas du Zohar, quand il s'est agi de l'imprimer, vers la fin du XVIe siècle, en 1558, eh bien, il y a eu des polémiques et des discussions extrêmement dures entre les kabbalistes ou entre différents rabbins de la communauté juive italienne pour savoir s'il était bien ou pas, si ce n'était pas à transgresser un interdit grave d'imprimer un livre comme le Zohar qui devait rester de transmission discrète.
Oui, mais là, on est en face d'un phénomène qui se retrouve dans beaucoup d'autres religions, et notamment dans la religion orientale. C'est dire que certaines vérités d'ordre spirituel ne peuvent pas être livrées sans une forme d'initiation. Et que par conséquent, le maître peut livrer, c'est effectivement le propre d'ailleurs de tous les ésotérismes, peut livrer certains des secrets à certains de ses disciples bien choisis, s'il est en état de les recevoir. Et sinon, si les phrases ne peuvent pas être reçues dans leur véritable sens, ces phrases peuvent éventuellement avoir un pouvoir maléfique. Alors est-ce que vraiment la Kabbale est de cet ordre-là? C'est-à-dire que nous sommes tellement au cœur de ce qu'est le mystère de la vie que nous ne pouvons l'aborder que extrêmement entourés et préparés par des gens qui déjà ont accompli toute une expérience.
Pendant très longtemps, effectivement, la Kabbale s'est présentée exactement de cette façon. Elle s'est réservée, ceux qui la transmettaient, en tout cas, ont réservé son enseignement à des disciples, sont refusés à coucher par écrit une grande partie d'entre eux, ne mettant sur le papier que ce qui leur paraissait pouvant être justement mis en circulation, sans cette précaution qu'implique la présence d'un maître et sa sensibilité à la capacité de ses disciples pour la recevoir. Mais depuis le XVIe siècle, un autre courant au sein même de la Kabbale s'est développé, un courant beaucoup plus ouvert, qui, à cause justement d'un mouvement intérieur qui traversait tout l'ensemble du judaïsme, un courant, mais sa dissémination était considérée comme, elle est encore d'ailleurs, comme ce qui pouvait hâter la venue du Messie, hâter la rédemption. Ce qui était caché venant soudain à la lumière, eh bien, ce basculement devait provoquer un choc collectif tel que, eh bien, le Messie venait. Donc, cette dimension messianique de la dissémination de la Kabbale, à partir de la fin du XVIe, XVIIe siècle, est devenue un élément important dans sa transmission.
Oui, c'est ce que vous appelez la fonction théurgique de la Kabbale, c'est-à-dire la capacité que l'homme a d'aider, ou en tout cas d'aller dans le sens du Créateur, parce qu'il est dans sa prière et dans son état, de modifier la relation que le Créateur a avec la créature.
C'est vrai que pour les kabbalistes, l'enseignement de la Kabbale a un effet théurgique, a un effet donc sur le monde divin et provoque de sa part, provoque en lui l'épanchement d'un surplus de lumière et donc, dans le meilleur des cas, de la venue même de la lumière par excellence, la lumière du monde, qui est la rédemption, c'est-à-dire l'époque messianique.
Donc Dieu a besoin de l'homme.
Dieu a besoin de l'homme, les kabbalistes le disent en ses propres termes. Ils disent même que Dieu n'est que par l'homme. Dieu existe parce que l'homme le fait exister. On trouve des phrases dans le Zohar et dans toute une tradition, dans toute une série de textes, selon lesquels c'est l'homme qui, par son action, c'est l'homme qui fait Dieu. Dieu est fait par l'homme, c'est-à-dire que s'il se comporte, s'il agit de telle façon prescrite par la, en tout cas selon les tâches que lui assigne la tradition juive et la Kabbale en particulier, eh bien, le Dieu caché, le Dieu mystérieux, qui finalement pour l'homme n'existe pas, c'est comme s'il n'existait pas, se met à exister. C'est donc l'homme qui fait Dieu en lui permettant d'exister dans son propre monde.
Par quel moyen?
Eh bien, en faisant que, sortant de sa plénitude close sur elle-même, Dieu entre en relation avec l'homme.
Oui, mais quels sont les moyens que l'homme
La
peut
prière,
utiliser?
l'accomplissement des commandements, selon les rites et selon les méthodes et l'intention que les kabbalistes ont décrit, et aussi par l'étude, ou par un acte qui provoque aussi la fabrication, la création de Dieu, j'appelle ça l'acte théopoétique, en reprenant ce terme à la tradition hermétique. La charité, la bienfaisance, pour le Zohar en tout cas, est particulièrement efficace pour permettre à Dieu de se révéler, et donc, plus radicalement même, d'exister, tout simplement. Car Dieu n'existe pas sans l'homme. L'homme doit se faire de lui-même un interlocuteur ou un vecteur du divin pour que Dieu existe pour lui.
Charles Mopsy, nous avons laissé la Kabbale dans l'Italie de la Renaissance du XVIe siècle. Nous allons voir ce qu'elle est aujourd'hui et le renouveau auquel vous participez. Auparavant, vous essayez de nous montrer rapidement les grandes étapes entre cette période et la période actuelle.
Il y a eu la Kabbale à Safed, 16e, 17e siècle, avec des grandes figures comme Isaac Luria, Moïse Cordovero et d'autres. Un rassemblement de kabbalistes après l'expulsion des Juifs d'Espagne en 1492, à Jérusalem et surtout à Safed, donc dans la Haute-Galilée. Une Kabbale nouvelle, avec des nouveaux textes importants qui ont fait autorité et qui sont devenus quasiment de même hauteur, de même importance que le Zohar lui-même. Ces textes ont cheminé en Europe. Une partie d'entre eux est devenue l'héritage des chassidim, des piétistes juifs d'Europe orientale. Et la Kabbale a continué son chemin sous différentes formes au Maghreb, en Orient, en Europe, surtout de l'Est, et puis en Italie, jusqu'à nos jours, où elle prend des formes nouvelles, en particulier le développement de différents groupes d'études, centres d'études, un peu partout dans le monde, en Israël bien sûr, aux États-Unis de nos jours c'est très très net, et puis également en France.
Toujours dans les milieux juifs, mais avec le désir de
Pas uniquement dans les milieux
poursuivre, non?
juifs.
Désir de poursuivre le dialogue avec les autres traditions.
Oui, souvent, dans ces nouveaux mouvements qui se réclament de la Kabbale, qui l'étudient, la Kabbale est associée, plus ou moins, selon les cas, à l'hindouisme, bouddhisme, à d'autres traditions, au christianisme, bien sûr, certains mouvements également sont des mouvements chrétiens, sont des groupes d'études chrétiennes de la Kabbale. D'autres, plus attentifs à la Kabbale juive, en la mettant en relation avec certaines doctrines du Nouvel Âge, du New Age. Donc il y a une dissémination très grande, très large, une diversification avec une combinaison multiple de traditions qui se rencontrent et qui se mettent ensemble pour, dans l'esprit des gens, pour aboutir à un mouvement extrêmement difficile à appréhender dans tous ses aspects, mais qui est le propre peut-être du religieux d'aujourd'hui.
Il subsiste encore des enseignements secrets?
Ah, si je vous disais non, c'est que je les ignorerais. Il existe forcément des enseignements secrets, oui. Il existe, si vous voulez, c'est vrai que lors d'un enseignement de Kabbale, il arrive parfois que le maître dit ceci, maintenant, ce que je vais vous dire, ne le dites pas à l'extérieur. Ne le faites pas savoir. Mais ça reste une partie, une petite partie de l'enseignement. C'est des choses que souvent on ne trouve pas dans les livres, ou qu'on trouve dans certains livres ou dans certains manuscrits. Mais disons que c'est une part peut-être extrêmement marginale, presque anecdotique, de ce qu'est la Kabbale, qui se trouve en très grande partie dans la littérature écrite, manuscrite ou imprimée, qui est accessible plus ou moins aujourd'hui selon l'état de la recherche et de l'avancement, processus de description des textes et de leur publication.
Et compte tenu de l'importance liée à l'expérience et à la transmission, est-ce que quelqu'un qui ne serait pas initié par un kabbaliste pourrait quand même entrer dans le cœur même de la Kabbale?
La question est de savoir qu'est-ce qu'un kabbaliste. On peut toujours se dire kabbaliste. Il n'y a pas de diplôme ou de marque déposée quelque part. Les kabbalistes sont reconnus par leur père. Mais eux-mêmes, dans les milieux des kabbalistes, en particulier des kabbalistes de Jérusalem ou des kabbalistes d'Israël, qui font parfois parler d'eux, dans l'actualité, il y a des accords souvent ou des tendances différentes. La Kabbale n'est pas du tout, hein, même au niveau de ses enseignants et des enseignants les plus connus, les plus célèbres, les plus remarquables, un système de pensée monolithique
Oui, et puis il n'y a pas de
où
label,
il n'y a pas de
effectivement.
label, il n'y a pas une doctrine de la Kabbale.
Oui.
C'est une forme de pensée et il y a différentes doctrines à l'intérieur même de la Kabbale, une Kabbale extatique qui privilégie l'accès direct au divin par des voies mystiques, l'union mystique, l'extase, la transe, et d'où des phénomènes prophétiques, de prophétisme spontané ou de prophétisme réfléchi. Et puis, une cabale plus théorique, plus théosophique, qui met en avant l'étude, l'approfondissement spéculatif.
Et entre ces deux extrêmes,
il y a beaucoup de nuances.
Voilà, il y a beaucoup de nuances, et où vous situez-vous?
Moi, j'ai surtout étudié la cabale théosophique, la cabale théosophique,
plutôt celle liée à l'étude. Oui.
Oui.
Les relations avec le judaïsme orthodoxe ont souvent été conflictuelles, parce que effectivement, les voies n'étaient pas les mêmes, et il y a toujours eu un parfum de mystère autour des kabbalistes. Est-ce qu'aujourd'hui, le dialogue est plus facile?
Ça dépend. Ça dépend des moments, ça dépend des personnes, ça dépend des lieux. Je ne crois pas qu'on puisse généraliser. Je crois au contraire qu'on peut remarquer aujourd'hui une certaine réticence ou un durcissement des milieux juifs orthodoxes vis-à-vis de la Kabbale. Non pas contre la Kabbale elle-même, mais contre justement le fait de sa dissémination. Le fait que son enseignement n'est plus ou est de moins en moins contrôlé ou contrôlable. Parce qu'elle se dissémine, parce qu'elle atteint davantage une grande masse de personnes. Et donc, cette réticence ou cette inquiétude se traduit par des réactions parfois très vives, contre l'enseignement de la Kabbale. Donc on peut dire qu'à notre époque, aujourd'hui, au moment où nous parlons, ce sera peut-être plus vrai dans 10 ans, en tout cas maintenant, la Kabbale pose un problème aux milieux juifs orthodoxes, à une certaine forme d'orthodoxie ou d'ultra-orthodoxie juive, puisqu'elle est une sorte de menace contre un ordre religieux strict, dans la mesure où elle remet en mouvement beaucoup d'éléments de la religion. Elle les remet en question, elle les remet en mouvement. Elle est aussi une instance critique à l'intérieur du judaïsme, paradoxalement.
Elle l'a toujours été, d'ailleurs.
Elle a toujours été.
Une des grandes forces de la Kabbale, et ce qui fait d'ailleurs sa fascination, c'est que la Kabbale a toujours osé poser les questions que l'on ne devait pas poser.
C'est vrai, mais elle y a aussi apporté des réponses. C'est pourquoi elle n'était pas seulement une instance critique, mais aussi une instance de propositions. Et de propositions qui, soit pouvaient mettre en difficulté un certain type de judaïsme orthodoxe, disons, pour aller vite, soit au contraire pouvaient s'allier à lui et le nourrir. Lui, vous savez, il y a un maître chassidique du 19e siècle qui disait que sans la Kabbale, il ne serait pas, sans le Zohar, il ne serait pas resté juif. C'est vrai que la Kabbale a aussi, comme le dit d'ailleurs Adolphe Franck, un des pionniers de la recherche moderne sur la Kabbale, la Kabbale est le cœur et la vie du judaïsme. C'est aussi la conception finalement de Gershom Scholem. C'est-à-dire que pour eux, et je crois qu'ils avaient raison dans une grande partie, la Kabbale a joué un rôle de force, de revitalisation du judaïsme.
Et dans votre cas précis, puisque vous nous avez parlé de cette rencontre avec la Kabbale, surtout à partir de l'âge de 18 ans, vous pensez que votre foi, que votre relation à Dieu s'est profondément modifiée depuis que vous êtes spécialiste de la Kabbale?
Je ne crois pas que cela a modifié quelque chose. Je crois que cela... Il ne s'agit pas d'une modification au sens où j'avais un certain type de foi ou de rapport à la foi, et puis la Kabbale est arrivée, et puis elle l'a modifiée, simplement. Je crois qu'elle a complètement remis en... elle a complètement bouleversé, elle a complètement fait chavirer un certain nombre de croyances ou de croyances aux croyances. Je veux dire par là que je n'ai jamais été quelqu'un de très croyant, peut-être même pas croyant du tout. Elle ne m'a pas apporté la foi, la Kabbale. Elle m'a apporté une façon d'interroger la foi, et peut-être ce qui pouvait être la foi même en moi-même, d'une certaine façon, de l'interroger autrement. C'est une recherche.
Donc vous ne diriez pas aujourd'hui que vous êtes un homme de foi?
Je suis embarrassé par cette question. Si je vous réponds non, je ne suis pas un homme de foi, j'aurais l'impression de mal dire ou de tromper les auditeurs, parce que ce n'est peut-être pas tout à fait vrai. Et puis si je dis oui, je suis un homme de foi, on aurait des images à l'esprit, on aurait une certaine idée de la foi, quoi. Qu'on plaquerait ou qu'on projetterait sur ce que je dis, qui serait aussi parfaitement inexact.
Bon, alors allons au-delà du oui et du non.
Tout à fait. Allons au-delà du oui et du non, mais disons que le Zohar parle du secret de la foi. Le secret de la foi pour le Zohar, ce n'est rien d'autre que l'exploration du corps divin. C'est très énigmatique comme expression. Pour les kabbalistes, c'est un sens très précis. Pour le moment, restons dans l'énigme.
Ainsi se termine Fort intérieur avec comme invité Charles Mopsik qui a choisi les musiques que vous avez entendues. D'abord une musique juive du 19e siècle, Nir Adir, de Louis Lewandowski, puis une berceuse traditionnelle judéo-espagnole, Durmé, Durmé, chantée par Daniel Veil, et actuellement un extrait du concerto pour violon et orchestre de Sibelius. Fort intérieur, une émission d'Olivier Germain-Thomas préparée avec la collaboration d'Annie Comier, à la technique Jean-Louis Boissonnade, chargé de réalisation Hélène Daude. Je vous renvoie tout particulièrement au dernier ouvrage publié par Charles Mopsik consacré à la Kabbale, Kabbale et Kabbaliste. Quel grand avantage de nous donner un historique extrêmement clair, d'essayer de saisir ce qu'est le fond même de ce mystère quasi insaisissable qu'est la Kabbale elle-même, comme on a pu s'en rendre compte. Et qui nous donne des extraits de quelques-uns des grands textes kabbalistes. Cet ouvrage est publié aux éditions Bayard. Je signale aussi le dernier ouvrage de Charles Mopsik, qui est une traduction, fragment d'un commentaire sur la Genèse, écrite par Joseph de Hamadan, et qui a été traduit donc par Charles Mopsik aux éditions Verdier. Ces mêmes éditions Verdier, où il dirige une collection, et vous pouvez entrer en relation avec ces éditions, demander le catalogue, en écrivant aux éditions Verdier. 11 220 La Grasse. Il s'agit d'une maison d'édition importante maintenant qui est située à la fois à Paris mais dans l'Aude et je vous ai donné l'adresse de l'Aude, 11 220 La Grasse.